Cours du mardi 28 janvier.
Et devenu la nature, ce que signifie en hébreu le mot olam, qui est le mot par lequel on traduit le monde. Nous avions vu précédemment, enfin préalablement, comment cette catégorie jette un éclairage différent sur le problème, d'abord sur le caractère vraisemblable de la notion de miracle, suivant les systèmes intellectuels considérés, souvent ça, c'était au tout début. Ensuite, essentiellement sur le problème de la liberté, de la détermination, sur la relation entre ces notions, du moins entre ces expériences. Et puis, la dernière fois, nous avons surtout réfléchi sur la considération de la différence entre une morale basée sur la notion de création, si vous voulez, approximativement une morale religieuse, et une morale dite laïque. C'est surtout de cela, je crois, que nous avions bavardé la dernière fois, un peu en désordre d'ailleurs, je suppose. Bon. Eh bien, nous allons aborder directement aujourd'hui une dernière notion qui se rattache à l'ensemble de ce problème, et qui joue un rôle fondamental dans ce qu'est la vision du monde propre à la tradition juive et telle qu'elle découle des données précédentes. C'est d'ailleurs, comme vous le verrez tout de suite, une notion qui joue un rôle non seulement dans la pensée juive, dans sa mentalité, dans son univers propre, dans sa familiarité propre, mais aussi, pour ceux qui sont déjà un peu au courant des textes, dans sa liturgie. Et c'est la notion de bénédiction. En hébreu, le mot « bracha ». C'est-à-dire tel quel, le monde, tel que nous l'avons déjà décrit, identifié jusqu'à présent, je ne reviens pas donc sur les analyses précédentes, le monde est connu comme étant le lieu de la bracha, le lieu de la bénédiction. Alors nous allons être occupés ce soir essentiellement à identifier ce que la conscience juive entend par là. C'est-à-dire à identifier le fait dont on parle, le phénomène dont on parle, à lui donner toute son importance du point de vue de la réalité même, de telle sorte de comprendre pourquoi précisément c'est cette notion qui apparaît comme le plus spontanément, comme le plus fondamentalement, comme corollaire de la catégorie que nous avons déjà analysée jusqu'à présent, c'est-à-dire le monde de la création devenu le monde de la nature. Et là encore, enfin nous serons surtout occupés à cela ce soir, et là encore toute une série de problèmes, de notions viennent s'organiser autour. Enfin, je vous énumérerai deux questions en particulier, si nous avons déjà le temps ce soir, nous commencerons à y réfléchir. C'est, d'une part, là, un problème qui est considérable pour lui-même, sur lequel il faut réfléchir, la position de la mentalité juive devant le phénomène de la nature tel qu'il a été conçu par les non-juifs. C'est la position de la mentalité juive par rapport au paganisme, d'une façon générale. Puisque, effectivement, au terme de l'analyse précédente, nous avons donc récupéré le monde en tant que nature à l'intérieur de son identification comme monde créé. Par conséquent, ce qui fait problème, ce qui apparaît comme problème, c'est l'attitude négative, radicalement négative, l'attitude de refus du monde de la nature de la part de la conscience juive et de sa mentalité. Enfin, c'est une attitude qui traverse toute l'histoire de la pensée juive, surtout au début, l'attitude de l'hébreu vis-à-vis de l'homme de la nature, de l'homme de nature, si vous voulez, de l'homme du paysage extérieur, de l'homme du champ, de l'homme, pas du champ, j'ai mal dit, enfin, de l'homme du paysage, du paysan, n'est-ce pas, c'est-à-dire du païen, dans le sens étymologique. Vous comprenez comment est le problème? Il y a là une difficulté, ou du moins un étonnement, dès qu'on découvre que, selon le judaïsme, et peut-être de la façon la plus radicale, la nature est considérée comme ayant été créée par Dieu, comment se fait-il qu'il y ait cette attitude négative par rapport au paganisme et à toute tentation de paganisme? Vous voyez comment est le problème, hein? Et on s'attendrait à ce que, au contraire, le judaïsme soit spontanément ou logiquement une religion du magnificat de la nature, puisque la nature est reconnue comme ayant créé par Dieu. Or, il y a là un problème qui demande une élucidation de cette attitude du psychisme juif, qui est extrêmement ancré dans la tradition juive. Tout ce qui ressemble à quelque chose de païen, c'est-à-dire étymologiquement, le fait de reconnaître une valeur comme telle à la nature est rejeté. Je crois que la rupture avec le paganisme, dans le sens le plus général, c'est le phénomène de base de la conscience hébraïque. Et puis, se rattache aussi au problème que nous étudierons ce soir, une deuxième donnée, une deuxième dimension, c'est façon d'approcher ce problème corollairement à la notion de bénédiction elle-même. Bon, alors je reprends les choses donc au commencement. Nous allons avoir un certain nombre d'ailleurs de références dans le texte de la Bible, et je l'indique d'une façon générale pour ceux qui sont déjà un peu familiers avec ce texte. Dans chaque contexte où le terme de bénédiction apparaît, il est évident que le contexte particulier donne un enrichissement spécial, un enrichissement particulier à la notion elle-même. Mais ce qui nous importe d'abord, c'est de découvrir sa signification fondamentale. Et par conséquent, nous appuierons surtout sur les textes du début du récit de la Genèse, chaque fois que, pour la première fois ou pour les premières fois, ce terme apparaît. Alors, il est d'abord important de remarquer que ce terme apparaît essentiellement au moment de l'apparition de l'homme dans le monde. Bien sûr, nous le trouverons déjà un peu avant, mais malgré tout, d'une façon générale, enfin de la façon la plus importante, si vous voulez, ce terme apparaît corollairement avec la présence humaine. Et plus exactement, c'est surtout le texte que nous aurons à analyser, il apparaît au moment où se produit cette transformation entre le monde de la création et le monde de la nature. Or, nous savons que, du point de vue de l'événement, le moment où, ontologiquement, le monde de la création devient le monde de la nature, mais c'est précisément le moment où l'homme apparaît dans le monde. C'est-à-dire que ça donne, si vous voulez, une certaine caractéristique subjective à la perception de la bénédiction dans le monde. Mais cette subjectivité, en quelque sorte, eh bien, elle est coextensive avec la nature humaine. Je veux dire qu'elle a les limites les plus larges, les plus universelles. Hein. C'est subjectif. Effectivement, l'homme seul est capable, peut percevoir cette dimension du monde qui s'appelle bénédiction et que nous aurons analysée. Mais il faut découvrir tout de suite que cette subjectivité, c'est celle de la nature humaine dans toute son extension, et par conséquent qu'elle a les limites de la plus grande objectivité. Je vous ai présenté cette donnée sous cette forme parce que nous verrons que cette propriété, si vous voulez, cette fonction de pouvoir percevoir le monde comme lieu de la bénédiction, peut se perdre. Mais les premiers récits de la Genèse nous montrent qu'en principe, elle est coextensive à la nature humaine. C'est-à-dire que cela va nous être extrêmement difficile de la mettre en évidence à un niveau abstrait ou à un niveau purement intellectuel. Il s'agit d'une expérience subjective de l'homme. Mais je corrige tout de suite, cette expérience subjective, elle est dans les dimensions même de la nature humaine. Je veux dire, nous avons affaire ici à une notion qui est beaucoup plus claire pour l'âme, si vous voulez, que pour l'intelligence. C'est-à-dire que ce travail qui consistera à élucider pour l'intelligence de quoi nous devons parler et va dépasser un peu la facilité habituelle de l'analyse des notions plus ou moins communes à l'intelligence telle qu'elle se connaît en Israël et en dehors d'Israël. Parce que on est déjà averti très tôt que cette possibilité d'identifier authentiquement ce dont on veut parler en parlant de bénédiction dans le monde ou de monde béni, eh bien, finalement, va de plus en plus rester le propre de la conscience biblique, de la conscience hébraïque. Mais primitivement, elle nous est présentée comme étant coextensive avec la nature humaine, et comme d'ailleurs, comme nous le verrons tout à l'heure, comme étant un critère d'authenticité du sujet humain, dans ce problème en tout cas. C'est un peu d'ailleurs ce que je voulais vous indiquer tout à l'heure, c'est que le deuxième problème qui se relie d'ailleurs à cela, et vous verrez d'ailleurs facilement la logique de tout cet ensemble, le premier, je vous l'ai indiqué, c'est l'identification du paganisme par la conscience hébraïque qui nous apparaît comme un étonnement, puisque nous avons appris que la nature, c'est le monde créé devenu nature. Pourquoi y a-t-il cette hostilité de fond du psychisme hébreu et du psychisme juif vers tout ce qui est païen? Faisons comprendre qu'est-ce qui est désigné là et résoudre cette contradiction apparente. Le second problème est un problème énorme. J'hésite un peu déjà à introduire cela dans ce sujet, mais en fait, ça vient, je vous l'indique. C'est le problème que l'on appelle en philosophie générale ou en théologie générale le problème des preuves de l'existence de Dieu. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas du tout un problème qui a agité la conscience hébraïque. Et on le trouve très tardivement, d'ailleurs, dans la pensée humaine. Là, ce problème apparaît très tardivement lorsque les derniers souvenirs de la sagesse antique ont disparu dans les sociétés humaines et que la pensée se secondarise dans sa forme philosophique, apparaît corollairement le problème que l'on appelle le problème des preuves de l'existence de Dieu. Je vous signale tout de suite qu'il y a une impropriété de langage. On devrait dire plus exactement le problème des démonstrations de l'existence de Dieu et non pas le problème des preuves de l'existence de Dieu. Enfin, nous verrons cela quand on arrivera à ce problème. Et nous verrons précisément, c'est l'identification de la bénédiction qui nous permet de comprendre pourquoi ce n'est pas un problème qui est propre à la conscience hébraïque, qui a bien sûr des certitudes à ce sujet, mais enfin qui n'a pas été préoccupé, escalité, d'établir des démonstrations de l'existence de Dieu. Parce que là, semble-t-il, comme nous le verrons, une expérience du monde d'une nature telle que ce problème n'est pas un problème interne à ses propres critères. Bon, alors reprenons donc les choses au début. Nous allons essayer de tenter une identification de ce que la Torah entend par bracha, de ce que la Bible entend par bénédiction. Alors, il ne s'agit effectivement pas d'éclairer une idée ou une notion, bien sûr il s'agit d'élucider un terme, mais surtout d'identifier une expérience. Alors partons par le sens fondamental du terme. C'est encore un terme qui, sous sa forme originelle, fait partie spécialement des langues sémitiques et en particulier, et de façon spécifique, de l'hébreu. Bien entendu, nous allons d'abord trouver un sens général que ce terme partage avec les autres langues sémitiques, mais nous trouverons très vite un sens un peu plus particularisé tel qu'il s'entend en hébreu. De façon un peu moins évidente que pour le terme de baro, pour le terme de créer, là c'était très tranché, c'était très schématique, hein, mais quand même c'est un phénomène linguistique du même ordre. Et nous verrons d'ailleurs corollairement que les deux problèmes se relient. La conception de la bénédiction et la conception de la création sont étroitement reliées. Et pour ceux qui savent un peu l'hébreu, vous décelez tout de suite une analogie sémantique entre le terme de baro, créer, et le terme de barer, bénir. Il y a un radical bilitaire commun, pas betresh. Ça ne veut pas du tout dire que ce soit la même racine. Vous savez qu'on a coutume, enfin ça c'est les habitudes des grammairiens. Les grammairiens ont l'habitude de grouper les racines hébraïques sous forme trilitaire, c'est-à-dire par trois lettres fondamentales. Il semble cependant qu'il existe une grammaire plus fondamentale encore de racines bilitaires, c'est-à-dire de radicaux de base de deux lettres, la troisième lettre modifiant le sens d'une famille plus fondamentale dans autant de nuances que donneront les différentes racines à trois lettres correspondantes. Enfin, pour les hébraïsants, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Je vous renvoie aux exercices habituels. Et cela vient de ce qu'en réalité, il semble que plus fondamentalement encore, l'hébreu soit une langue où les racines avaient primitivement une lettre. Et il en est resté quelque chose, évidemment, puisque nous avons certaines lettres qui, toutes seules, forment une racine, qui ont une signification précise et spécifique. Par exemple, même le lamot, ou certaines, le bet, le kaf, certaines lettres de ce genre, ont toute une signification enfermée dans une seule lettre. Bon, bref, quand est arrivé le temps de faire des grammaires scientifiques hébraïques, on a pris, si mes souvenirs sont exacts, on a pris comme modèle les grammaires que les grammairiens occidentaux faisaient sur la langue arabe, notamment, et on a adopté, parce qu'elle semblait la plus pratique, on a adopté cette règle de grouper les racines hébraïques sous forme trilitaire. Enfin, néanmoins, nous avons comme ça, entre certains termes, des analogies fondamentales qui sont indiquées par la racine bilitaire, le sémen de la racine, du radical, et en tout cas, et comme nous le verrons, c'est le cas pour ces deux termes. Donc je ne veux pas du tout dire que baro et barer sont la même racine, selon les normes habituelles de la grammaire classique, pas du tout. Mais nous verrons qu'il y a un lien notionnel entre ces deux termes. Alors c'est le premier point que nous allons aborder. Dire qu'est-ce que l'hébreu entend par le terme bracha qui se traduit en français par le mot bénédiction. Je crois qu'il faut quand même un peu élucider le terme français lui-même, parce qu'il ne correspond pas très exactement à la signification du terme hébreu dans sa forme déjà. Bénédiction, en français, implique l'idée de quelque chose qui est dit. Bénédiction, bénédicere. Dire le bien de. Le sens le plus habituel de ce terme, aujourd'hui en tout cas, c'est le sens du souhait. C'est-à-dire souhaiter le bien de quelque chose, ou de quelqu'un. C'est-à-dire souhaiter que ce que nous appellerons la bénédiction, et mettons-le maintenant entre guillemets, soit donné à quelqu'un ou à quelque chose. Bénir quelqu'un, c'est dans le sens le plus habituel, ou bénir quelque chose, c'est dans le sens le plus habituel, et c'est une signification dérivée de la liturgie. Souhaiter le bien. Mais c'est ce bien qui est souhaité qui indique la bénédiction de laquelle nous parlons. C'est-à-dire du phénomène bénédiction, du fait bénédiction. Donc, dépassons très vite, si vous voulez, ce sens purement rituel du terme de bénédiction qui véhicule cette idée du souhait de la bénédiction. S'il existait un mot comme bénéfaction, par exemple, c'est-à-dire le bien fait, pas le bien dit, c'est-à-dire souhaité, mais le bien réalisé, le bien fait, le bien en tant que phénomène, en tant que réalité, alors la chose serait plus simple. Il faut quand même d'abord débroussailler cette première étape. D'autant plus que lorsqu'on veut dire la formule de bénédiction, en hébreu aussi on dit une bracha. Mais ce n'est pas de cet aspect de la bracha que nous allons nous occuper dans la définition de ce soir, c'est du phénomène. Qu'est-ce que c'est que ça, un être béni ou une chose bénie? À la question que nous posons, l'identification du monde comme lieu de la bénédiction, ou comme être béni, c'est-à-dire comportant la bénédiction. Alors, c'est de cette première équation que nous allons nous occuper. Ça veut dire, d'abord, de façon spontanée, de façon immédiate, la conscience hébraïque conçoit que le monde, c'est-à-dire le Olam, est béni. Olam, ça veut dire bracha, le lieu de la bracha. Et par conséquent, si cette expérience que nous allons identifier n'existe pas, c'est que la bracha est retirée. C'est qu'elle est perdue. Le fait qu'il n'y ait pas bénédiction, c'est la normale. Le normal, c'est que le monde soit conçu comme béni. Et si l'on perçoit le manque, c'est comme manque qu'il est perçu. Alors, c'est une première considération des choses qui est extrêmement importante qu'il faut remettre à l'endroit, en quelque sorte. C'est-à-dire, ce qui serait normal, ce qui est conçu comme normal, c'est que le monde soit béni. Comme nous allons voir d'ailleurs, dans l'ordre de la logique du texte, il arrive un moment où le texte nous avertit, le monde a été privé de bénédiction. Hein? Complètement, pas complètement, c'est un autre problème, mais on s'aperçoit que le fait qu'il n'y ait pas bénédiction, c'est quelque chose qui arrive, c'est un incident. Mais que du point de vue de sa nature, naturellement, si vous voulez, si j'ose dire dans ce problème, naturellement, la nature est bénie. La nature est bénédiction. Et la première équation, c'est que le Olam est Baruch. Le Olam est béni. Le monde, c'est la bénédiction. Et qu'est-ce que c'est que ça? La bénédiction, c'est donc notre première question. Enfin, il faut d'abord retenir ceci. Il est bien évident que nous avons d'ailleurs chacun d'entre nous une expérience différente du monde à ce sujet, comme nous allons le voir. Mais pour retrouver l'ordre normal des expériences, bah, la première évidence, c'est que le monde est béni. Et que si cette bénédiction manque, c'est qu'il est arrivé quelque chose qui l'en a privé. Hein? C'est pas l'inverse. Hein? C'est pas que le monde soit à l'origine comme non béni et que la bénédiction viendrait comme un incident. Le fait que la bénédiction soit là, c'est cela qui est normal. Et le fait que le monde en soit privé, c'est cela qui est anormal. C'est important, ça ne revient pas du tout au même. Parce qu'il en résulte que la configuration du monde est d'une toute autre allure et d'une toute autre signification. Hein? C'est-à-dire, à la limite, ça peut renvoyer à deux théologies radicalement différentes et opposées. Hein? Eh bien, le terme même de bracha, tel qu'on peut déjà l'explorer dans l'ensemble des langues sémitiques, indique l'idée d'une abondance. Et alors pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est facile à reconnaître. Le mot de bracha en arabe signifie l'abondance, beaucoup plus qu'il ne signifie la bénédiction. Par la suite, il y a des sens dérivés en arabe, ça veut dire la chance. Mais ça, c'est les non-arabes qui disent que les arabes pensent comme ça. Mais l'arabe n'a jamais pensé, en disant bracha, n'a jamais pensé à chance. Ça, c'est quand les grecs parlent l'arabe, ils disent que bracha, ça veut dire chance. Mais en réalité, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a expérience de ce dont l'hébreu parle en disant bracha. C'est-à-dire que, alors là, on pourrait prendre des formules extrêmement différentes, mais l'essentiel, c'est d'arriver à une certaine convergence d'expérience. Encore une fois, c'est très difficile à définir au niveau de la définition abstraite. Il faut diagnostiquer une expérience. C'est l'expérience que les choses sont plus que ce qu'elles sont. Que les choses ne se bornent pas à être ce qu'elles sont, elles seraient squelettiques. Elle serait fantomatique, mais qu'il y a une densité, une plénitude, un trop-plein même, hein? Quelque chose qui déborde dans les choses, c'est cela la bracha. Hein? Et lorsqu'on rencontre un être ou une chose qui est le support de cette expérience, on a rencontré sur un point le olam authentique, c'est-à-dire la bracha. Si vous voulez, une surabondance des choses qui fait que le monde ne se borne pas à exister, à être ce qu'il est, il y a quelque chose de plus, d'extrêmement mystérieux, parce que cette expérience est subjective. Mais enfin, cette subjectivité-là, c'est un fait. Et c'est un fait qui est une évidence de départ pour la conscience hébraïque, surtout informée de la Torah. La Torah, ici, vient confirmer, en parlant de ce dont elle parle, elle vient confirmer ce qui est une expérience de base de la mentalité juive. Vous comprenez? Si vous voulez, pour schématiser un peu abstraitement le sujet, nous pourrions avoir devant ce problème deux attitudes. Que le monde est que ce qu'il est, et c'est très décevant. Hein? Et alors, il faut faire appel au sortilège, ou à quelque technique que ce soit, c'est toujours de l'ordre du sortilège, pour y mettre cette chose qui est exigée par la conscience humaine pour être satisfaite, qu'on ne sait pas nommer, mais enfin que l'hébreu nomme bénédiction. C'est une première attitude. Hein? C'est évidemment celle qui est étrangère à la conscience hébraïque. Ou bien l'attitude inverse, celle qui consiste à reconnaître d'emblée le monde comme lieu naturel de la bénédiction, et puis d'être sensible au fait que le cas échéant, cela manque. Mais c'est une toute autre attitude. Est-ce que je crois qu'on peut s'arrêter là 5 minutes pour
parler.
C'est des lignes de force qui s'entrecroisent, n'est-ce pas ? Une espèce de squelette du monde qui serait le monde vrai, qui est en tout cas le monde tel que le décrit la connaissance scientifique. Et à propos duquel Pascal disait déjà à propos de Descartes, déjà bien à l'avance, ce silence des espaces infinis m'effraye. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Pascal. C'est exactement ça. C'est le monde privé, conçu comme privé de ce que nous appelons la bracha. C'est-à-dire un monde qui se bornerait à être que ce qu'il est, à exister dans le sens le plus philosophique du terme. Il n'y a pas plus en faire que ça. Ça, c'est le monde de la malédiction. C'est-à-dire le monde privé de sa bénédiction. Oui. Heureusement pour nous, le monde n'est pas comme ça. Mais enfin, c'est le monde de la vision scientifique. Et, ma foi, nous sommes maintenant occupés à penser le monde comme ça. Par conséquent, ce problème dont je vous parle est peut-être beaucoup plus proche de nous qu'il n'a pu être des anciens d'avant le temps de la mentalité scientifique. Oui.
Je pense que la science ne prétend pas que le monde est comme ça.
Je pense aussi.
Elle décrit certaines caractéristiques du monde.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'elle sait, elle a conscience que sa description est appauvrie. Elle est efficace à un certain point de vue.
Oui. C'est bien mon avis, mais c'est ce que je disais en disant le monde s'il n'était que cela, s'il était comme nous le connaissons scientifiquement. Je dois vous dire d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de savants en tant que philosophes. Oui, c'est bien, mais en fait ils y croient dur comme fer.
Comment ? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait que la conscience hébraïque, d'une part, est consciente d'une surabondance, une bénédiction, de quelque chose qui est encore plus. Et d'autre part, dans le fait qu'elle reconnaît que l'être qui lui est donné n'est qu'un être qui est en question, un être qui a besoin d'être confirmé.
Oui.
Pas d'être totalement.
Bon, justement, ça se rattache au premier problème que je vous ai signalé, qui est que nous devons avoir à élucider ce paradoxe, hein, de la conscience hébraïque qui, d'une part, est occupée à reconnaître que le monde de la nature, c'est le monde de la création. C'est sa première conviction, et qui cependant le refuse. Ça fait partie de ce problème-là.
Elle refuse de lui attribuer de la valeur.
Oui, en fait, elle refuse en tout cas cette attitude que je vous ai définie provisoirement par le terme de paganisme, n'est-ce pas ? Ça fait partie de ce problème-là. Nous retrouverons ça à ce moment-là. J'ai bien compris votre question. Qui me fera la bénédiction de me donner du feu ? Si l'eau n'était que H2O, eh bien, elle serait effectivement privée de ce qui fait qu'elle est l'eau. L'eau du monde de la bénédiction. Puis la H2O, c'est l'eau de, heureusement pour nous, le monde n'est pas le monde où l'eau, c'est H2O. Si nous étions vraiment dans un monde qui serait ainsi pour toutes les choses, bien nous serions en enfer. Peut-être pire, plus bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Une bénédiction, en fait. Qui est déjà quelque chose d'héroïque. Mais en plus que cela, il y a quelque chose de considérablement plus que cet être ne se borne pas à exister, mais il est, c'est-à-dire il est béni, il est plus que lui-même. Il y a donc, dans le monde comme monde, quelque chose qui n'est pas du monde, qui n'est pas de l'ordre du monde, et que la Torah appelle la bénédiction qu'il y a dans le monde. Du point de vue des catégories formelles, voilà, tout se passe comme si nous assistons à la découverte d'un phénomène extrêmement important pour nous faire comprendre la différence de mentalité, même logique, que nous pouvons avoir vis-à-vis de certaines doctrines, et vous verrez jusqu'où ça peut aller. C'est que, dans le même fait, il y a coexistence du plus et du moins. Dans le moins, il y a du plus. Et les choses sont ainsi. C'est un fait d'expérience. Je veux dire qu'à partir du moment où on a réussi à expérimenter cette rencontre de la bénédiction, on rencontre ce fait que dans le moins, il y a du plus. Bon. Et cela, finalement, toutes les consciences humaines ont été aptes à faire cette découverte. Il y a dans le moins du plus, et dans tous les ordres de réalité. Mais la pensée humaine, laissée à elle-même, et en dehors des catégories que nous analysons, en a induit un principe absolument aberrant et illogique, mais qui se fait prendre pour une cohérence logique, parce que les choses sont ainsi, c'est ce fameux principe aristotélicien que le plus sort du moins. Ce principe que le plus sort du moins est une contradiction logique, et cependant, c'est un principe qui se fait prendre pour la logique, pour de la cohérence logique, tout simplement parce qu'on est bien obligé d'expérimenter que dans le plus, il y a du moins. Que dans le moins, il y a du plus. Les choses sont à la fois ce qu'elles sont et plus. D'où vient ce plus? Bien l'homme a répondu, du moins. C'est une option philosophique. C'est une option philosophique qui d'ailleurs est absolument aberrante du point de vue des principes de la logique la plus fondamentale. Mais la mentalité humaine s'est habituée à admettre un tel principe comme évident. Elle a construit des quantités de théories, d'hypothèses et de doctrines là-dessus, tout simplement parce qu'elle ne dispose pas d'une autre explication vraisemblable. Or, il est bien évident que lorsque nous entrons un peu dans la familiarité des textes juifs qui parlent de ces choses-là, nous voyons que spontanément, la pensée hébraïque, déjà, et la pensée juive, a pensé les choses tout à fait autrement. Bien sûr, il y a du plus dans le moins, mais ce que le plus est venu dans le moins, et qu'il n'est pas sorti du moins. Et il y a là, enfin, comment dire, pour les problèmes de logique formelle même et de méthodologie de la pensée, une question extrêmement importante qui reçoit un éclairage tout à fait différent. Il y a, si vous voulez, une perpétuelle venue de la bénédiction dans l'existence. Et ça, comment dire, c'est une donnée d'expérience. Je veux dire que entrer dans cette catégorie, dans cette mentalité, dans cette façon de penser, il faut d'abord bien avoir identifié le fait de bénédiction. D'ailleurs, pour anticiper un peu sur le deuxième point de tout à l'heure, je vous dirai tout de suite que finalement, la base de la foi juive, c'est pas tellement le problème de Dieu existe-t-il ou pas, c'est un problème inaccessible à l'intelligence non informée, pas, c'est le problème de savoir est-ce que je reconnais qu'il y a de la bénédiction dans le monde ou pas. C'est ça, si vous voulez, la pierre de touche de la émouna, la pierre de touche de la foi. Avoir rencontré la bracha, rencontré la bénédiction, c'est ça, être certain que notre monde a été créé. Mais avoir rencontré la bénédiction comme bénédiction, c'est-à-dire dans cette catégorie fondamentale de l'expérience que j'essaye de vous décrire, se rendre compte, quel que soit le niveau, quel que soit le type d'expérience que l'on a eu à ce sujet, se rendre compte que le monde est tel que non seulement il existe, mais il est béni. C'est-à-dire que non seulement les choses sont ce qu'elles sont, hein, un monde qui ne serait que cela, peut être explicable par n'importe quel système autre que notre propre conception des choses, mais qu'il y a un phénomène irréductible à l'intelligence naturelle, c'est la présence de la bénédiction dans les choses et dans les êtres. Toujours en anticipant un peu, il est bien évident que la définition du paganisme vous apparaîtra à ce moment de façon simple. Le paganisme consiste à adorer la bénédiction comme telle, à ériger la bénédiction en divinité. Bon. Alors, il y a un premier indice, important d'ailleurs, dans les textes, qui nous définissent ce qu'est, si vous voulez, ou ce qu'est censé être la bénédiction par excellence. La bénédiction par excellence, c'est-à-dire indépendamment de l'extension que ce terme a, il porte sur toute chose porteur de bracha. Hein? Mais la bénédiction par excellence, la définition que la Torah nous en suggère de façon privilégiée, si vous voulez, c'est la fécondité. En effet, bénir, dans le sens transitif du terme, rendre béni, c'est, dès l'emblée des textes de la Bible, rendre capable d'engendrer. Si vous voulez, le signe privilégié de la bénédiction, c'est enfanter. Un être béni, c'est un être fécond dans ce sens que non seulement il est lui-même, mais il est ce qui porte plus que lui-même, c'est-à-dire l'enfant. Oui.
La bénédiction existe. Est-ce que ce n'est pas la même chose que l'optimisme?
Oh, c'est plus que ça. L'optimisme, c'est une attitude. Ça peut arriver à coïncider. si je comprends bien le cheminement de votre question. Mais l'optimisme, c'est une attitude qui, à la limite, ou d'une façon générale, consiste à préférer penser que la bénédiction est possible. Le contraire étant le pessimisme, une tendance à penser que c'est impossible. Non, mais il ne s'agit pas d'une option intellectuelle, il s'agit d'une expérience. On ne peut pas convaincre quelqu'un que la bénédiction existe, ainsi identifiée. On peut simplement lui désigner le genre d'expérience dont il s'agit. Et c'est lui seul qui sait s'il l'a faite ou ne l'a pas faite. Hein? Non. Oui, personne ne peut se tromper dans des problèmes de ce genre, n'est-ce pas? On ne peut pas se satisfaire d'une bénédiction illusoire. Avoir vécu une réalité, ce n'est pas la même chose que de la revivre dans le rêve. Ou avoir rêvé un rêve, ce n'est pas la même chose que de vivre ces mêmes choses dans la réalité. Mais il y a là, comment dire, un problème d'existence directe, d'existence embrayée, si vous voulez, qui ne trompe pas. Je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est d'écrire, et ça, l'intelligence peut nous y aider, mais c'est surtout le sens poétique qu'il faudrait avoir. Et encore, parce que la poésie, c'est juste ce qu'il y a avant la bénédiction. Puis elle s'arrête là où la bénédiction commence. Mais...
Est-ce que le passage du monde en tant que création au monde en tant que nature, est-ce que c'est quelque chose qui se place uniquement sur le plan ontologique? Est-ce que le mot nature a un sens ontologiquement?
Bien sûr. En tout cas, c'est ainsi que l'entend la pensée. Je oui, bien sûr.
Comment? Et si vous voulez... nature, c'est vis-à-vis d'une représentation, parfois une représentation humaine.
Mais oui, mais écoutez, c'est de ce monde où l'homme est concerné que nous parlons. De ce qui serait l'inconnu, il n'y a pas de problème, vous connaissez, ça ne nous préoccupe pas. Que l'inconnu soit comme il est, peu importe. Ce qui nous pose le problème, c'est cette opposition entre la conviction et la représentation. Et est-ce que ma réponse est claire? Enfin, j'ai compris ma réponse, mais je ne sais pas si vous l'avez intégrée.
Justement. On est de l'opposition entre la conviction. Bon, mais la conviction contient quelque chose de réel.
Non, écoutez, la conviction. Bah, si vous voulez, d'une façon générale, le choc de deux civilisations, la civilisation hébraïque et la civilisation grecque. Or, nous sommes actuellement dans un monde que nous nous représentons à la manière des Grecs, mais que nous comprenons à la manière des Hébreux. C'est cela le problème propre à la pensée juive. Voilà le problème. Hein? Et puis, effectivement, il en est ainsi à l'échelle de l'individu. Hein? Vous voyez, nous sommes toujours gênés du point de vue de la méthode par le fait que c'est tantôt nos croyances qui envahissent notre expérience, tantôt notre expérience qui envahit nos croyances. Alors c'est pourquoi je crois que c'est au niveau de l'abstraction que les choses peuvent être clairement définies. Il n'y a pas de doute que à ce niveau-là, eh bien, la notion de création s'oppose et est exclusive de la notion de nature et inversement. C'est pourquoi d'ailleurs les textes des théologiens chrétiens nous sont illisibles, parce qu'ils font semblant que c'est la même chose. Vous comprenez? Alors que lorsque vous ouvrez les textes des théologiens juifs, il y a une lucidité et une, comment dire, on ne se trompe pas soi-même, vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de doute, surtout chez les protestants, n'est-ce pas? Vous lisez un texte, notamment protestant, sur un problème de ce genre. Bon, alors on ne sait plus où on est, c'est le bilboule le plus complet. Dans le même mot, dans une phrase signifie création, dans l'autre il signifie nature, puis par un tour de passe-passe affectif, pas, de la foi de type chrétien, le problème est de non, c'est une solution verbale. Vous comprenez? Tandis que dans les textes de la... théologie juive, qu'elle soit mythnalite ou racine d'ailleurs, les mots ont le sens qu'ils ont et les catégories sont catégoriquement définies. Et je crois, si vous voulez, que pédagogiquement, il est bien évident qu'on n'a rien à gagner à diluer les problèmes, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Tant que les enfants naissent, eh bien, les questions restent. Vous comprenez ce que je veux dire? On aura beau, à chaque âge, résolu un problème, il se pose encore pour l'enfant qui est en train de naître. Par conséquent, il est coéternel à l'histoire des engendrements de l'homme par l'homme. Alors voici donc la première remarque que je suis en train de faire. Bien entendu, pour nous, ce qu'il s'agit de suivre, c'est l'aménagement intellectuel de notions, tel qu'il va apparaître dans la catégorie de Minhal Haolam, création devenue culture, et puis la différence avec l'allure du récit biblique qui nous décrit ce même processus au niveau ontologique, c'est-à-dire dans la réalité du monde même. La question que vous avez posée est intéressante d'ailleurs, mais finalement ça revient au même. Bon. Eh bien, nous avions donc déjà vu cela la dernière fois. Alors, il y a une première nuance à introduire. C'est que la création devenue nature reste cependant ce qu'elle est. Et tout se passe comme si la création s'enveloppe. La tradition exacte du terme hébreu correspondant s'enveloppe de ce que nous désignons par la nature, hein, mais cependant reste ce qu'elle est à l'intérieur même de ce revêtement. Mais, si vous voulez, son identité de création telle qu'elle a été définie est beaucoup plus elle-même à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, je voudrais expliquer cette image, c'est-à-dire il y aura évidemment des niveaux d'être de la nature où le monde est plus nature que création, et puis des niveaux d'être de la nature où le monde est plus créature que plus création que nature. Alors les deux limites, si vous voulez très schématiquement, sont d'une part la création restée création, hein, l'identité humaine, et d'autre part la nature devenue le plus nature, le monde de la quantité. Le monde de l'être impersonnel. Si vous voulez que dans cette catégorie de la création de la nature, il y a, comme on dit en hébreu, madrigot, c'est-à-dire, il y a des niveaux d'équilibre différents. Enfin, il y a un pôle où la création reste tout entière. Création, c'est là où l'identité humaine est réelle, hein. C'est là où, si vous voulez, comme nous disions la dernière fois, cette immense part de liberté, d'autonomie de la création qui était diffuse dans l'univers vient se réfugier. Hein? Et puis par conséquent, à l'écorce, à la périphérie, il y a le niveau d'être du monde qui est plus nature, le plus nature que création. Et c'est comme vous voyez dans cette première remarque, une vision de l'ordre des choses qui dispose tout à fait autrement l'économie des problèmes qui se posent aux théoriciens de la culture générale. Hein? Je vous donne tout de suite un exemple qui me paraît extrêmement important. Bah, il y a une antinomie fondamentale qui handicape l'aisance de la pensée dans la culture occidentale, cette fameuse antinomie, entre l'expérience du déterminisme elle-même et l'expérience de la liberté. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ici une espèce de nœud de la pensée que l'homme occidental n'arrive pas à résoudre. Parce que l'expérience de la liberté est réelle, et l'expérience de la détermination est réelle. Et l'opposition de ces deux notions aboutit à ce qu'on appelle depuis Kant une antinomie, hein, ou à ce que si vous voulez, une conscience chrétienne appellerait sans gêne un mystère. Hein, et ce problème n'existe pas dans la tradition. Ou du moins, il n'existe pas ainsi insoluble, pas sous forme d'antinomie. En ce sens que, le monde étant création devenue nature, et les trois termes étant permanents,